Merci. Donc bonjour à tous. Donc je vais vous parler aujourd'hui effectivement de comment les animaux communiquent par des sons. Et le propos c'était de vous montrer comment on étudie ces systèmes de communication par les sons, comment on l'étudie de manière scientifique. Alors avant on va commencer juste en se mettre en forme dans dans nos oreilles par un petit quiz. Donc ça je pense que tout le monde sait. Qu'est-ce qui a reconnu? Ouais. Un grillon, absolument. Oups, c'est dans l'autre sens. Donc voilà des grillons, alors un peu plus dur. Il faut qu'ils viennent. Il est un peu fort. Non, toi tu réponds pas. Celui qui trouve est très fort. Alors, c'est pas une baleine. C'est pas un crapaud. C'est pas un hippopotame. En fait, je vais pas te laisser répondre, Avril. C'est ma fille, donc elle sait. En fait, c'est un oiseau. C'est un oiseau qu'on appelle l'outarde oubara qui produit ces sons très 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 graves. Alors un autre oiseau qui est plus facile, celui-là. Alors Aglaé, on va l'arrêter. Ah non, pas le rossignol, pas la chouette non plus, pas la mouette, pas le jet des chênes, le pivert, absolument. Allez, un petit dernier pour la route, et si vous trouvez, vous êtes assez fort aussi. On va prendre celui-là pour commencer. Alors, je vous aide un peu, c'est dans l'eau. C'est pas un crapaud. Mais c'est pas mal, crapaud. Vous allez voir pourquoi. C'est pas une grenouille. C'est pas une tortue. C'est pas un triton. C'est un poisson. Et c'est un poisson qu'on appelle justement le poisson crapaud. C'est pour ça que c'était pas mal, le crapaud. Et donc c'est un poisson qu'on trouve au large des côtes américaines et qui produit ces sons. Et d'une manière générale, tous les animaux que vous avez entendus là maintenant utilisent les sons qu'ils produisent pour communiquer. Alors, ils communiquent et moi, dans mon équipe, à l'université Paris-Sud, dans l'équipe dont je fais partie, on étudie ces systèmes de communication par les sons. Et le propos aujourd'hui, c'est de vous montrer comment on fait. Alors, on fait ce qu'on appelle de la bioacoustique. La bioacoustique, qu'est-ce que c'est? C'est l'étude des communications acoustiques chez les animaux. Et en fait, ça repose sur le fait que, qu'est-ce que c'est la communication acoustique? C'est l'échange d'informations entre les animaux par des sons. C'est-à-dire que vous allez avoir un individu émetteur qui produit ce qu'on appelle un signal. Dans ce signal, vous avez, un ou plusieurs messages qui sont codés. Et ces signaux sont envoyés en direction d'un individu récepteur. L'individu récepteur interprète et décode les messages. Et il va alors, à ce moment-là, y répondre, soit par un comportement, soit de manière physiologique. Et donc, étudier la communication acoustique, ça s'appelle la bioacoustique. Alors, il faut quand même commencer par savoir qu'est-ce que c'est les ondes sonores, qu'est-ce que c'est les ondes acoustiques. Les ondes acoustiques, si je vous montre ça, c'est Star Wars, d'accord? Tout le monde connaît en général. Et si je vous montre ça dans l'espace, vous pensez immédiatement au bruit que font les vaisseaux dans l'espace. Alors, faut quand même savoir une chose, c'est que dans Star Wars, en fait, si on était en vrai dans la vraie vie, on n'entendrait rien. Parce que pour qu'il y ait des ondes sonores, il faut qu'on soit dans un milieu. Et par exemple, si les vaisseaux de Star Wars étaient dans l'eau, là, on entendrait... Même chose si on était dans l'air. On entendrait de nouveau la même chose. On ne va pas le refaire parce que c'est un peu fort. Donc, pour qu'il y ait onde sonore, il faut qu'il y ait un milieu, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des particules. Ces particules, elles vont être mises en mouvement. Ici, vous avez la source qui produit le son. Et comment on produit un son? C'est qu'on met en mouvement des particules ou des molécules, et que ces molécules vont, en étant mises en mouvement, aller rencontrer des molécules adjacentes. Vous allez donc avoir une succession de collisions, et vous allez avoir comme ça une propagation d'une onde qui est une succession de compression et de raréfaction qui se propage à partir de la source de l'onde sonore. Et vous avez ici sur cet exemple une onde très très simple, une onde sinusoïdale, hein, que l'on représente en l'amplitude en fonction du temps ici, et qui est définie par sa période, c'est-à-dire que vous avez ici ce point-là, vous le retrouvez exactement à la même amplitude une période plus tard. Ces ondes sonores, elles sont définies par trois domaines, par trois paramètres essentiels. Elles sont définies par leur amplitude, par leur période, donc par le temps. Et avec la période, vous allez avoir le troisième paramètre qui est l'inverse de la période, qui est la fréquence. Et quand on va décrire des sons, on va toujours utiliser ces trois dimensions. Ces sons, je vous disais, se propagent ou dans l'air ou dans l'eau. Ils se propagent aussi, il ne faut pas oublier, ils se propagent aussi là. Alors là, vous n'allez peut-être pas bien entendre, mais si je fais ça, vous entendez la composante aérienne du son, mais si vous étiez une araignée, vous percevriez les vibrations au niveau du substrat. Alors évidemment, l'araignée, là, elle ferait des bonds sur la table. Hein. Mais si je grattais très très légèrement le substrat, ce serait perceptible pour une araignée, parce que les araignées perçoivent ce qu'on appelle les ondes élastiques, qui sont des ondes de surface, des ondes sismiques, qui vont se propager à la surface d'un solide. Donc les ondes sonores, c'est soit des ondes aériennes, soit des ondes transmises dans le milieu aquatique, soit des ondes élastiques transmises au niveau d'un solide. En fait, dans la plupart des comportements fondamentaux des animaux, on va retrouver la production de signaux acoustiques. Pas tous les animaux, on va voir après. Mais si on regarde, ces signaux acoustiques vont être produits dans le cadre de la recherche du partenaire, des retrouvailles entre les jeunes et les parents. Ils vont être produits dans le cadre de la recherche de nourriture. Ouais ? Ah pardon, je croyais que c'était une question. Non, tout va bien. Ils vont être produits aussi dans le cadre de soins aux jeunes, dans le cadre de localisation des individus, de défense de territoire, et dans le cadre aussi de comportement d'alarme, ou dans le cadre de l'indication d'état émotionnel. Dans tous ces actes fondamentaux que réalisent les animaux et qui sont parfois vitaux pour eux, vous avez émission de signaux acoustiques qui vont participer à des interactions. Alors, qui est-ce qui communique justement via des signaux acoustiques? Pas tout le monde, en fait, pas tous les animaux. En fait, vous avez deux grands groupes. Vous avez les vertébrés, et parmi les vertébrés, bien sûr, les oiseaux sont bien connus. Mais vous avez vu, tout à l'heure, je vous ai fait entendre un poisson, et en fait, on le sait moins, mais les poissons communiquent beaucoup par signaux acoustiques. Et puis, évidemment, on connaît bien les grenouilles. On sait moins, mais les crocodiles utilisent aussi des signaux acoustiques pour communiquer. Et puis, évidemment, les primates. Et puis, on peut se demander, puisque les oiseaux sont finalement les descendants des dinosaures, on peut se demander si un certain nombre de dinosaures ne communiquaient pas aussi par des signaux acoustiques. Un autre grand groupe dans lequel on va trouver des communications par signaux acoustiques, ce sont les arthropodes. Alors c'est qui les arthropodes ? Les arthropodes, ce sont tous les animaux qui ont une peau rigide, qu'on appelle la cuticule, et qui va être articulée. C'est par exemple les crevettes, hein, les crustacés. Et les crevettes produisent des sons en faisant claquer leurs pinces et elles utilisent ces sons pour communiquer. Évidemment, vous avez un grand nombre d'insectes, hein, mais également certaines araignées. Et chez les insectes, on a vu le grillon tout à l'heure, et il y a même des insectes aquatiques, c'est-à-dire des insectes qui réalisent leur cycle de vie dans l'eau. Hein. Parmi ces insectes aquatiques, vous en avez aussi qui produisent des sons, comme par exemple celui-ci, qui est un tout petit insecte, une toute petite punaise aquatique, qui fait 2 mm de long, et qui produit des sons extrêmement forts, avec un organe spécialisé, et elle utilise ces sons pour communiquer. Alors comment est-ce qu'on étudie un système de communication acoustique ? Alors, on revient juste sur des bases. Étudier un système de communication, la communication acoustique, ça fait partie du comportement animal. Pour étudier le comportement animal, on va adopter une approche empirique. D'abord, on observe le comportement. Ensuite, on va se poser des questions sur ce comportement. Et ensuite, on va formuler des hypothèses. C'est la démarche scientifique. Et ensuite, on va mettre en place les outils expérimentaux qui permettent de tester ces hypothèses. Et puis, bien entendu, on teste les hypothèses. La question, quand même, c'est quand on étudie le comportement, quel genre de questions on peut bien se poser. Et en fait, lorsque l'on étudie la communication acoustique, on va se poser deux grands types de questions. Des questions qui vont rentrer dans la catégorie « comment ?» « Comment ça marche ?» Et puis des questions qui vont rentrer dans la catégorie « pourquoi ?» Quelle est la fonction de ces signaux acoustiques et à quoi ça sert chez les animaux ? Et donc, ce que je vais un peu vous montrer maintenant, c'est une espèce d'overview de comment on regarde ça. Alors, comment ça marche ? Comment les signaux sonores sont produits ? Ces signaux, ils peuvent être produits soit par des organes non spécialisés, hein, comme par exemple le pic qui va taper avec son bec contre l'arbre. On a vu que le pic, il produisait aussi, on a entendu les vocalisations du pic, mais les pics communiquent également en tapant contre les arbres, hein, en tambourinant. Il y a d'autres animaux qui tambourinent, qu'on connaît peut-être moins. Les chenilles de ce papillon, là, elles tambourinent pour défendre leur territoire, leurs feuilles dans lesquelles elles vont manger, et puis ensuite dans lesquelles elles vont s'envelopper pour devenir une chrysalide et se changer en papillon. Et puis, parmi les organes non spécialisés, vous avez aussi chez les mouches, les ailes. Et par exemple, alors autant que je me souvienne, ça marche pas, donc on va le faire comme ça, histoire de ne pas faire planter l'ordinateur. Alors ces petites mouches drosophiles, hein, c'est tout petit une mouche drosophile, hein, ça fait moins de 5 mm de long. Et évidemment, ça produit, comme la source sonore est de très faible amplitude, ça produit des signaux de très faible amplitude que vous ne pouvez pas entendre à l'oreille nue. Mais là, elles sont placées, en fait, vous voyez, elles sont placées directement sur la membrane du microphone. Et ce que vous voyez, c'est le mâle. Ici, c'est la femelle. Et c'est le mâle qui, avec ses ailes, produit ses sons. Et dans le but évident de séduire la femelle. On revient à la présentation. Il n'y a pas que les drosophiles qui utilisent leurs ailes pour produire des sons. Il y a aussi cet oiseau. Si vous tendez l'oreille, vous avez entendu ti, 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 comme ça. Et cet oiseau, il produit ses sons rigolos comme ça. C'est-à-dire qu'il fait, en fait, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait toucher ses ailes en arrière et il va faire entrechoquer les plumes de ses ailes très très. très rapidement et c'est ce qui produit ces signaux très aigus que l'on a entendus. Alors, vous avez aussi chez les animaux la présence d'organes spécialisés pour produire des signaux sonores. Ces organes spécialisés, un exemple, toujours chez les insectes, c'est ce que l'on trouve chez les fourmis. On sait que les fourmis communiquent beaucoup par signaux chimiques. Ce que l'on sait moins, c'est que les fourmis communiquent aussi avec des signaux acoustiques et que pour produire ces signaux acoustiques, elles ont au niveau de leur abdomen, chez certaines espèces, chez d'autres espèces c'est localisé ailleurs, une plaque striée avec des stries et au-dessus une petite dent comme ça. Et c'est cette dent, en grattant sur cette plaque striée, qui va produire les sons que vous avez entendus, les tss, 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 comme ça. Cette plaque striée, on peut la regarder au microscope électronique, la voici, et vous voyez ici, à plus fort grossissement, vous voyez la présence des stries qui sont donc grattées par la dent. C'est un peu le même principe qu'une guitare. Mais vous avez aussi des instruments à vent. Par exemple, cette blatte, ce cafard, il produit des sons. Il produit ce genre de choses, et en fait, il produit des sons qu'il expulse. Ici, comme tous les insectes ont un système pour respirer. Ils respirent à l'aide de sortes de tubes qui sont connectés à l'extérieur par des trous. Et ces trous, en fait, sont ouverts sur le thorax et l'abdomen de l'insecte. Ils l'utilisent pour respirer. Mais ils l'utilisent également, dans certains cas, comme chez la blatte, pour produire des sons. C'est-à-dire qu'ils expulsent de l'air par ces tubes d'air, par ces trous. Et c'est ce qui produit, c'est pfff, comme ça. Alors il y en a d'autres, des instruments à vent que l'on connaît mieux peut-être. Alors normalement ce film-là marche, j'ai pas besoin d'aller le chercher dans mon truc. Alors par exemple, ce bel oiseau, ce cardinal, il utilise ce qu'on appelle une syrinx. Cette syrinx, elle est localisée à la base de la trachée, à l'endroit où la trachée communique avec les deux bronches primaires. Et vous voyez que c'est lorsque l'air passe à travers des membranes qui sont localisées ici au niveau de la jonction de la trachée et des bronches que les sons sont produits. Et les oiseaux donc produisent ces sons avec cet instrument à vent magnifique qui est la syrinx, et ils ont la particularité de pouvoir produire sur deux voies en même temps. Soit la voie gauche, soit la voie droite, soit les deux en même temps. Alors, quelle est la gamme de production de ces sons? Si, sur ce graphique qui va se remplir, vous avez ici, vous avez ici l'échelle des longueurs d'onde. On a vu que les sons étaient des ondes sonores avec une certaine longueur d'onde. Et ici, ce qui correspond au niveau des fréquences. Ah, normalement. Alors voilà, ce que je vous ai posé ici, c'est la gamme de production lorsque de la parole humaine. Globalement, la parole humaine, c'est entre 100 Hz à peu près, on considère, et 4-5 kHz. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire de 100 Hz, 4,5 kHz? Lorsque vous avez un son avec une grande longueur d'onde, ce son va être de basse fréquence ou de fréquence grave. Lorsque vous avez un son avec des longueurs d'onde très courtes, vous allez avoir des sons aigus. D'accord ? Et donc vous voyez que l'homme produit des sons relativement graves. Ici, on va parler d'infrasons si ces fréquences sont inférieures à 20 Hz, et on va parler d'ultrasons si ces fréquences sont supérieures à 20 kHz. Et là, on voit bien cette échelle de 20 Hz et 20 kHz, cette notion, elle est définie par l'oreille humaine. sous 20 Hz, on n'entend rien, et au-dessus de 20 kHz, on n'entend rien. Donc on dit que sous 20 Hz, c'est de l'infrason, et au-dessus de 20 kHz, c'est de l'ultrason. Alors si on regarde maintenant un peu la gamme de production d'un certain nombre d'animaux, les punaises, qui sont donc des insectes, produisent des sons de très basse fréquence, sous les 20 Hz, tout comme l'éléphant. Donc on ne peut pas entendre leurs sons. On peut les enregistrer avec des enregistreurs spéciaux, mais on ne peut pas les entendre. Alors, il fait plusieurs choses. Il peut émettre des sons qui sont audibles pour l'homme, et il émet aussi des sons qui sont inaudibles pour l'homme. Mais effectivement, vous avez raison, il émet les deux. Les mouches produisent aussi relativement à basse fréquence. Les mouches drosophiles que je vous ai fait entendre tout à l'heure, c'est entre 100 Hz à peu près et 250 Hz. Un animal bien connu, les cigales, produisent à peu près jusqu'à 12 kHz. Elles peuvent produire, suivant les espèces, sur une gamme de fréquences très large. Et puis on retrouve aussi dans cette gamme de fréquences les oiseaux. Les oiseaux, globalement, ils produisent entre 1 kHz et 8-10 kHz. Donc ils peuvent produire plus aigu que la parole humaine, par exemple. Je vous parle de généralité. Évidemment, on trouve toujours des cas particuliers, comme par exemple l'oiseau que je vous ai fait entendre au tout début. Cet oiseau que je vous ai fait entendre au tout début, ses signaux sont à 50 Hz. Donc c'est vraiment très bas. Et puis ensuite, on va trouver beaucoup de grillons, des criquets, des sauterelles. On a récemment décrit cette sauterelle en Colombie, en Équateur. Et cette sauterelle, elle produit des sons, des signaux en stridulant à plus de 100 kHz. Elle va jusqu'à 130 kHz et c'est ce qui lui a donné son nom d'ailleurs. Elle s'appelle Supersonus. Et puis évidemment, quand on parle d'ultrasons, on va penser par exemple aux chauves-souris, hein, qu'on connaît peut-être mieux que les sauterelles comme producteurs d'ultrasons. Alors, on a vu un peu comment ça marchait en termes de production. En termes de réception, j'ai pas grand-chose. J'ai juste à vous parler de ces belles illustrations ici. Tous les animaux qui communiquent avec des sons ont des oreilles. Alors, ils ont des oreilles qui vont avoir évidemment des organisations très particulières en fonction du groupe d'animaux dans lequel vous vous trouvez. Ici, vous avez une belle démonstration d'un tympan de grenouille. Ce tympan de grenouille, à l'arrière de ce tympan de grenouille, vous avez une oreille moyenne et une oreille interne qui ressemble un peu à la nôtre. Vous avez ici les oreilles de ce moustique qui, vous voyez, sont un peu plus extraordinaires que les nôtres, finalement, hein, qui vont être en fait comme des espèces de tiges qui vont rentrer en vibration avec le mouvement des particules qui sont déplacées par l'onde sonore. Et ces tiges qui vont rentrer en vibration vont constituer les oreilles de ces moustiques. Alors, comment est-ce qu'on étudie ces signaux et comment est-ce que l'on essaye de trouver comment sont codées les informations à l'intérieur de ces signaux et comment elles sont décodées par les animaux? Il y a trois grandes étapes. La première étape, ça va être d'enregistrer. La deuxième grande étape, ça va être d'analyser et de décrire les signaux produits. Et la troisième étape, qui est la plus importante, ça va être de tester nos hypothèses. Et tester les hypothèses, ça veut dire poser les questions aux animaux eux-mêmes. Et poser les questions aux animaux eux-mêmes, ça veut dire leur diffuser des sons et observer les réponses comportementales. Alors pour enregistrer et puis ensuite analyser et décrire, bien sûr, on va utiliser des microphones. Et ces microphones vont nous permettre d'enregistrer les individus qui émettent des signaux acoustiques. Donc vous avez ici plusieurs exemples de situations où on enregistre les signaux acoustiques. Et vous voyez qu'on peut aussi enregistrer les signaux acoustiques dans l'eau, hein, avec ce qu'on appelle un hydrophone. On peut ici utiliser des micros spécialisés. Ici, c'est une fourmi hein, et qui va permettre d'enregistrer les ultrasons de ces fourmis. Dans certains cas, les micros sont directement placés sur les animaux, ce qui permet de suivre les vocalisations avec une très grande échelle de temps et en continu. Et puis ensuite, une fois qu'on les a enregistrés, on va faire ce qu'on appelle les analyser et les décrire. Alors ici, on retrouve l'oiseau que je vous ai montré tout à l'heure. Cet oiseau, vous avez vu, il produit... On n'est pas très créatif quand on décrit, ou plutôt on est très factuel finalement. On dit qu'il produit des booms. Hein, c'est ce qu'on a entendu tout à l'heure. Et il les produit en succession comme ça. Vous avez ici une succession de 5 booms représentés amplitude du son en fonction du temps. Et en fait, on va utiliser ce type de représentation et également une représentation amplitude en fonction de la fréquence ou bien fréquence en fonction du temps avec l'amplitude qui est codée par un code couleur pour réaliser des mesures précises qui vont permettre de caractériser les signaux produits. Donc des mesures dans le domaine temporel et également dans le domaine fréquentiel. Et puis on va avoir enregistré plusieurs animaux, plusieurs vocalisations, et donc on va répéter ces mesures de façon à pouvoir les décrire précisément, hein, et de façon à pouvoir en extraire des idées, des hypothèses sur quels sont les paramètres acoustiques qui vont permettre le codage de l'information. Parce que la description a un but, cette description, c'est vraiment rechercher quels sont les paramètres acoustiques, parmi les paramètres temporels ou les paramètres fréquentiels que l'on mesure, qui supportent le codage de l'information pour les animaux. Alors par exemple, là on a vu comment on décrivait des vocalisations de type d'oiseau, de type assez simple, de type boom. Vous savez qu'on a d'autres vocalisations chez les oiseaux. Ces vocalisations, on les appelle des chants. Ces chants, pas très fort, faut tendre un peu l'oreille. Alors, qu'est-ce qu'il connaît? Ouais, des alouettes. Alouettes des champs. Alors, une alouette des champs, là, c'était juste un tout petit extrait de chant d'alouette des champs. L'alouette des champs, on va en reparler tout à l'heure parce que j'ai un exemple d'étude sur l'alouette des champs. Elle a un chant très très long, en continu, qu'elle émet en vol. Et ce chant très long, il est composé d'un grand nombre d'unités sonores différentes. Ici représentée amplitude en fonction du temps et ici représentée fréquence en fonction du temps. Ce sont les mêmes unités sonores mais qui sont représentées de manière différente. Et vous, cette grande diversité d'unités sonores, pardon, on peut les appeler des notes. Ces notes, elles peuvent être regroupées en ce qu'on appelle des syllabes. Donc chaque note va correspondre à, ici sur le spectrogramme, un tracé ininterrompu. Et puis vous voyez que ces tracés se succèdent avec des intervalles de temps relativement courts. Donc on va parler de syllabes. Hein. Et puis on va avoir des enchaînements de syllabes. On va parler de séquences par exemple. Et on peut même utiliser la terminologie pardon, de phrases. Et on l'utilise par exemple, ce que vous avez ici, c'est que vous allez avoir des séquences de syllabes qui vont se répéter. Donc voilà comment par exemple on peut décrire le chant d'un oiseau chanteur. On pourrait aussi avoir ce genre de chant. Qui c'est? Non. Le merle. Alors voyez, le merle, on retrouve ici un spectrogramme de chant de merle et vous voyez que les syllabes n'ont pas la même allure que les syllabes de celles de l'alouette. Une autre chose intéressante à remarquer, si je vous illustre et vous l'entendez aussi à l'oreille. Alors ça c'est difficile, c'est un oiseau aussi. C'est un tout petit oiseau. Non. Non, c'est pas un oiseau mouche, mais ça pourrait. C'est un roitelet. Et pourquoi je vous ai montré, je vous montre le chant du merle et le chant du roitelet ? Parce que ces deux espèces se distinguent par leur poids, notamment. Et le chant du roitelet, si vous le regardez sur le spectrogramme avec l'échelle des fréquences qui est ici, il est petit et il produit des chants, un chant relativement aigu. Alors que le merle est plus gros, et vous voyez ici sur l'échelle des fréquences, ces syllabes sont produites à une gamme de fréquences beaucoup plus grave, et on l'entend à l'oreille. Hein. Donc voilà le genre de choses que lorsque l'on va analyser les chants, on va pouvoir décrire très précisément. On va pouvoir caractériser très précisément que le chant du roitelet est émis à une certaine fréquence, et le chant du merle est émis à une autre fréquence. Et ici, c'est en relation avec la taille. Vous avez une autre illustration de cette différence de fréquence. Cette fois-ci, on n'est plus chez des oiseaux, on est chez des amphibiens. On va avancer un peu parce que sinon... Voilà. Alors, cette petite rainette, là, en anglais... On l'appelle la bird-voiced tree frog. Pourquoi on l'appelle la bird-voiced tree frog ? Elle a une voix comme celle d'un oiseau. Elle a une voix relativement aiguë, cette petite rainette. Et vous voyez ici son chant représenté sur un spectrogramme. Hein. À la différence de celui-ci... Alors on va avancer un peu aussi... Non. Voilà. On n'entend pas très bien. Fait comme ça. Et vous voyez que, pareil, au niveau du chant, au niveau de l'illustration de ce chant, vous voyez qu'on est dans des fréquences beaucoup plus basses que celle de la grenouille arboricole. Hein. Alors, ça, c'est ce qu'on a, d'accord ? On a un petit peu compris comment on essayait d'analyser les chants. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire diffuser, poser des questions à l'animal ? C'est-à-dire tester les fonctions des paramètres acoustiques que l'on a identifiés et dont on suppose qu'ils participent au codage de l'information. Et pour ça, donc, on pose des questions à l'animal avec un haut-parleur, hein, et on observe les réponses comportementales de cet animal. Alors vous avez ici par exemple des dispositifs, vous voyez un haut-parleur qui est placé dans la forêt tropicale, ici un haut-parleur qui est caché, dissimulé dans l'habitat de l'outarde oubara, l'oiseau qui produisait des fréquences si graves, hein. Et on va donc observer et quantifier les réponses comportementales. Je vous montre un petit exemple, alors on ne va pas voir très bien. L'oiseau, donc là on est à Orsay, à l'université, on est dans un milieu arboré, un bosquet de la fac, et on a placé un haut-parleur qui va diffuser le chant d'un troglodyte. Le troglodyte, c'est un tout petit oiseau, et on a fait ce qu'on a pu pour le filmer, hein, et donc il va apparaître par là, et vous allez voir ce qui se passe. Donc le haut-parleur est là, dissimulé. Et l'oiseau, il est là. Et le... Voilà, il est passé là. Il est passé là. Il va s'énerver par ici. Il émet des espèces de cris de détresse. Il repasse par ici. Il chante. C'est lui qui chante aussi. Donc on entend et le haut-parleur et l'oiseau, hein. On n'entend pas très bien, je suis désolée. Alors qu'est-ce que... Je vais arrêter parce que c'est pas la peine de... Sinon ça va durer longtemps. Alors qu'est-ce qu'on a fait là ? Là on est dans le cadre, en fait, un grand nombre d'oiseaux produisent leur chant pour défendre leur territoire. Qu'est-ce que c'est un territoire ? C'est une zone où ils vont avoir des ressources, par exemple des ressources liées à la nourriture ou à la reproduction, et qu'ils vont défendre par un certain nombre de comportements vis-à-vis des individus de leur espèce. Hein, et la production de champs est un comportement territorial, un comportement de défense du territoire. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait ici ? Ben, on s'est introduit dans le territoire de ce troglodyte avec un haut-parleur et on a diffusé le chant d'un autre troglodyte. Et donc, ce que vous voyez, c'est que ça a suscité chez le troglodyte dans le territoire duquel on s'est introduit, ça a suscité la réponse comportementale qui est qu'il est venu à proximité du haut-parleur, il s'est mis à chanter, hein, il a eu une réaction typique de défense de son territoire. On en voit même qu'il attaque le haut-parleur dans certains cas. Hein. À l'encontre de cet intrus symbolisé par le haut-parleur qui diffuse un chant. Et donc maintenant, ce que je vais vous montrer pour un peu plus préciser, c'est comment on a réalisé une étude de bout en bout sur l'alouette des champs. Alors l'alouette des champs, la question que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui, c'est comment on a recherché ce que disent les alouettes des champs à leurs voisins. Et c'est le travail de thèse d'une étudiante qui a passé 3 ans de son travail dans notre laboratoire il y a quelques années. Alors l'alouette des champs, c'est un oiseau chanteur commun. C'est un oiseau territorial et dont l'habitat, en fait, à la différence du troglodyte, l'alouette des champs, son habitat, c'est des zones plutôt ouvertes, des champs, des prairies, des cultures. Hein. On ne va jamais la trouver en milieu arboré. Et au sein de ces milieux ouverts, on en trouve aussi beaucoup dans les dunes, hein, souvent, au sein de ces milieux ouverts, les mâles établissent des territoires qui sont symbolisés sur cette figure par ces petits bouts de parcelles là. Et donc vous allez en raison de la discontinuité de l'habitat de l'alouette, parce que vous avez par ailleurs des arbres, des forêts, des habitations, des routes, vous allez avoir comme ça des patchs, des localités où vous allez trouver plusieurs individus établis sur des territoires contigus. On va les appeler des voisins. Et puis, lorsque les individus sont établis dans des territoires mais qui ne sont pas contigus, donc dans des localités différentes, on va les appeler des étrangers. C'est-à-dire que cet individu ici n'est pas en contact direct, ni acoustique, ni visuel, avec les individus que l'on qualifie d'étrangers. On l'a vu tout à l'heure, j'ai commencé à le décrire, le chant de l'alouette est particulièrement complexe. Complexe, composé de syllabes, et ces syllabes sont organisées en séquences de syllabes, et vous voyez un truc intéressant ici, c'est que cette séquence de syllabes, c'est exactement la même que celle-ci. Donc on va avoir des syllabes, des séquences, des syllabes dans un certain ordre, qui vont se répéter dans le chant de l'alouette. Ce chant, il est particulièrement long. On a vu des alouettes chanter pendant plus d'une heure. Il est émis en vol et pendant plus d'une heure, l'alouette peut chanter. Et je vous disais, il est particulièrement complexe. Il est constitué par plus de 300 syllabes différentes par individu. C'est-à-dire que chaque individu produit a dans son répertoire 300 syllabes différentes qui vont être donc différentes par leurs caractéristiques de durée et de fréquence. Alors, une information extrêmement importante pour les animaux à faire passer à leurs congénères, c'est-à-dire aux individus de la même espèce, dans le cadre de la défense du territoire, c'est « je suis de ton espèce ». Donc je suis une alouette, je défends mon territoire et je suis une alouette. Pourquoi ? Parce que, je vous l'ai dit, un territoire est défendu vis-à-vis des individus de la même espèce. C'est-à-dire que si un rouge-gorge arrive sur le territoire d'une alouette, l'alouette s'en fiche. Par contre, si une alouette arrive sur le territoire d'une autre alouette, cette alouette va défendre son territoire. Et donc on a recherché ce qui, dans le champ de l'alouette, codait l'information « je suis une alouette ». Cette information, qui donc dans ce champ relativement très complexe, cette information, ce codage de l'information « je suis une alouette », il est relativement simple. On a pu montrer qu'il reposait sur le rythme, c'est-à-dire le rapport entre le son et les silences qui suivent ces sons. C'est ce qui va définir le rythme. Et il y a un rythme alouette, si vous voulez. Et c'est ce rythme alouette qui va participer au codage de l'information « je suis une alouette ». Il y a un autre paramètre qui est important. C'est ce qu'on appelle le tempo, c'est-à-dire le nombre de syllabes par unité de temps, le taux de répétition des syllabes. Et vous voyez que ce sont des paramètres relativement simples, parce que là, on voit qu'on a des formes de syllabes très différentes. Mais en fait, si vous enlevez ces syllabes très différentes et qu'à la place, vous diffusez des syllabes qui ont toutes la même allure comme ça, mais avec le bon rythme et le bon tempo, c'est-à-dire le rythme et le tempo que l'on a mesuré comme étant celui de l'alouette, les individus qui défendent leur territoire vont répondre. C'est-à-dire qu'avec un haut-parleur, vous diffusez ce type de son là, et le haut-parleur va susciter des réactions d'attaque et de défense du territoire. Bon, ça c'est le codage de l'information « je suis une alouette ». On a voulu aller plus loin parce qu'on se disait bien qu'avec cette organisation aussi complexe, avec cette grande variété de syllabes, on aurait d'autres potentialités de codage d'information. Et on revient à ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a analysé les champs. Et analyser les champs d'alouette, c'est un travail de fou. Ça veut dire qu'on a répertorié chacune des syllabes différentes dans les champs d'individus qui ont été enregistrés. On a procédé à un étiquetage de ces syllabes. Et donc, chacune des syllabes s'est vue attribuer un numéro, et lorsque les syllabes, chaque syllabe différente portait un numéro différent. Donc on a ici les syllabes, ici des séquences de syllabes, et comme je vous le disais tout à l'heure, ces séquences de syllabes, c'est-à-dire la production de syllabes dans un certain ordre, peuvent être répétées, c'est-à-dire peuvent être répétées dans le même champ du même individu. Mais on a pu aussi constater que ces séquences de syllabes peuvent être aussi produites dans les champs d'autres individus. C'est ce qu'on a mesuré. En fait, on l'a mesuré à partir de cette succession de nombres qui étaient les syllabes transformées. On a pu construire le répertoire de chaque oiseau et on a pu quantifier le partage entre les oiseaux des syllabes ou des séquences de syllabes. Vous avez ici, par exemple, une localité dans laquelle vous avez des individus voisins et puis vous avez trois extraits de chants de ces individus, de chacun de ces individus. Enfin, plutôt trois individus, vous avez pour chacun un extrait de chant avec les petites syllabes qui portent leur petit numéro. Ce que vous voyez ici surligné en rouge, c'est des séquences de syllabes qui sont partagées par ces trois individus. Et vous voyez que ces deux individus ici partagent une séquence de syllabes encore plus longue. Et en fait, on a quantifié tout ça et on a pu montrer que dans le champ de chacun des individus voisins, on avait un partage de syllabes, de séquences de syllabes. Il y avait des syllabes qui étaient propres à chaque individu, des séquences de syllabes qui étaient propres à chaque individu, et il y avait aussi des séquences de syllabes que l'on retrouvait dans le champ de tous les individus de la localité. Et on a vu ça entre plusieurs localités, puisqu'on a enregistré les animaux dans plusieurs localités. Donc ça, c'est le constat que je viens de vous énoncer. Et donc, on a fait l'hypothèse, c'est ce qu'on appelle un micro-dialecte. Vous savez ce que... Ouais ?
Tout à l'heure, quand vous dites qu'on a mis le son de l'animal,
oui.
Quelque part, vous faites une imitation. Vous reproduisez le son de...
On l'enregistre et on rediffuse.
Et vous dites qu'il a attaque parce qu'il protège son territoire.
Oui.
Et ça, c'est parce que vous jugez que c'est son comportement naturel.
Oui, parce qu'on a observé avant le
comportement. C'est pas votre étude qui le démontre, ça.
Non, parce que... Alors,
Non, pardon. Si je prends les micro-trucs que vous avez pris, là,
ouais.
Et que vous mélangez...
J'y viens. J'y viens.
Peut-être, attends.
S'il vous plaît, passe le micro si vous voulez parler. Non,
non,
vous
non,
vous non, non, parce que sinon on n'entend rien.
Bah bon,
non, mais. J'y viens. J'explique. J'y viens. Donc, ces variations de champ entre localités sont appelées des variations géographiques. Alors comme on est dans les localités séparées par quelques kilomètres seulement, on va appeler ça des variations micro-géographiques. Et en fait, c'est un dialecte. Hein, c'est de la même façon qu'en Bretagne ou à Marseille, on ne parle pas forcément exactement de la même façon. Hein, en Bretagne, on parle un dialecte. À Marseille, on parle un autre dialecte. Je parle pour les humains. Bah, chez les oiseaux, c'est pareil. Il y a des dialectes. Et chez les alouettes, il y a un micro-dialecte partagé par les voisins d'une même localité. Et donc, on a fait l'hypothèse que ce micro-dialecte, c'est-à-dire ces variations géographiques, c'est-à-dire ces séquences de syllabes communes aux individus d'une même localité, codaient une information et codaient une information « je suis de telle localité, je suis de tel groupe ». Et donc, on a posé cette hypothèse et pour tester cette hypothèse, on a fait des expériences de diffusion au cours desquelles on a posé des questions aux animaux. Alors qu'est-ce que c'est la procédure de diffusion dans ce cas-là? Vous avez un individu sur son territoire, on met un haut-parleur à la frontière de son territoire et ce haut-parleur va diffuser soit le chant d'un voisin, soit le chant d'un individu établi dans une autre localité distante, donc on a appelé un chant étranger, soit des chants modifiés. Et puis on observe les réponses comportementales de ces oiseaux. Alors ces chants modifiés, justement, qu'est-ce qu'ils étaient? Les chants modifiés, je vous rappelle, on a fait l'hypothèse que c'est les séquences de syllabes communes aux voisins qui codent pour l'identité de groupe. Alors on a identifié ces séquences de syllabes, ces séquences partagées, on a pris les séquences partagées et on les a artificiellement insérées à la place de séquences de syllabes dans le champ des étrangers. Et on a construit comme ça ce qu'on appelle, ce que nous on a appelé un champ chimérique, c'est-à-dire un champ d'étrangers, mais dans lesquels on a retrouvé entre 20 et 30% des séquences de syllabes partagées par les voisins. Donc ce champ, il est à 70% inconnu pour l'alouette, produit par un individu étranger, et il est à 20 ou 30% composé de séquences partagées par tous les voisins de la même localité. Et puis on a testé ces champs, mais on avait aussi fait l'hypothèse que à l'intérieur de ces séquences de syllabes partagées, il y avait un paramètre qui était important, c'était l'ordre des syllabes. Et donc on a construit non seulement un champ chimérique, comme je viens de vous le décrire, mais on a aussi construit un champ chimérique modifié, c'est-à-dire que l'on a artificiellement modifié l'ordre des syllabes, hein, de sorte que cet ordre ne correspondait plus à l'ordre initial des syllabes, des séquences de syllabes partagées par tous les individus voisins. Et puis on l'a testé aussi. Et voilà les résultats. Vous avez ici sur ce graphique, c'est le niveau d'agressivité. Plus vous montez vers le haut de l'axe, plus les individus qui ont été testés ont répondu de manière agressive. Qu'est-ce que c'est les réponses agressives? C'est ils s'approchent plus du haut-parleur, ils produisent plus de chants en réponse et ils restent plus longtemps à proximité du haut-parleur. Vous avez les trois signaux qui ont été diffusés, le chant d'un voisin, le chant d'un étranger et le chant chimérique. Vous voyez que les réponses, évidemment il y a plusieurs individus qui ont été testés, et ce que vous voyez c'est que les réponses au champ étranger et les réponses au champ voisin sont différentes, et les réponses au champ étranger sont beaucoup plus agressives que celles au champ voisin. Et ce que vous voyez aussi, c'est que les réponses au champ chimérique, c'est-à-dire ce champ étranger dans lequel on a artificiellement inséré des séquences de syllabes partagées par tous les voisins, ce champ chimérique suscite des réponses qui ne sont pas différentes de celles suscitées par les champs voisins et qui sont peu agressives. Deuxième expérience, c'est lorsque l'on a modifié à l'intérieur des séquences partagées l'ordre de des syllabes. Et vous voyez que là, vous avez la diffusion d'un champ étranger, les réponses à la diffusion d'un champ étranger. Ici, la réponse au champ chimérique, donc faible agressivité, forte agressivité. Et ici, ce que vous voyez, c'est que le champ chimérique modifié suscite des réponses comportementales équivalentes, aussi agressives que celles au champ étranger. Donc, si on en conclut, alors je crois que là il y a des petits trucs comme ça, mais si l'on en conclut sur cette expérience, c'est bien les séquences de syllabes partagées par tous les individus voisins qui codent l'identité « je suis » de tel groupe, ce que j'ai traduit ici pour le groupe de voisins, à tel endroit, hein, et un autre groupe de voisins va partager d'autres séquences de syllabes, et ce seront ces autres séquences de syllabes qui constitueront ce qu'on appelle ce que nous on a appelé la signature de groupe. Alors j'ai pas le temps de continuer ici, je vais terminer là maintenant, mais on a aussi montré que les alouettes, donc on a montré que les alouettes, dans leur champ très complexe, elles pouvaient coder l'information je suis une alouette. Elles pouvaient coder une signature de groupe. Mais elles peuvent aussi coder une information individuelle. Je suis Pierre, je suis Paul, je suis Jean. C'est-à-dire que les alouettes sont capables de discriminer si le voisin de droite est bien resté à droite lorsqu'il chante. Si on met un haut-parleur qui chante le chant de Pierre, qui devrait se trouver à droite, mais qu'on le fait chanter à gauche, donc venant d'un autre territoire, les réponses comportementales suscitées ne sont pas les mêmes. Et il y a aussi une autre information que l'on va trouver dans ce champ, c'est l'information sur l'indication de l'état émotionnel, l'état d'agressivité. Et notamment une information « je suis moyennement énervé » ou « je suis très très énervé ». Et ça, c'est codé par le rythme de production de certaines syllabes. Voilà, j'ai fini. Donc merci pour votre attention. Et je veux bien répondre à toutes les questions.
Voilà, le micro est disponible. Je vous le passe. Il suffit de se signaler.
Non, attends.
Et voilà, et c'est bon.
C'est bon ?
Exposé, je me demande s'il existe des exemples de communication d'espèces qui arrivent à communiquer avec d'autres espèces.
Oui, ça existe. Le premier exemple qui me vient à l'esprit, c'est lorsque les animaux produisent des signaux d'alarme. Et les signaux d'alarme ont souvent des caractéristiques. Alors, c'est vrai notamment entre les oiseaux. Les signaux d'alarme vont avoir une structure qui est relativement commune entre différentes espèces, de sorte que lorsque une espèce produit un signal d'alarme, les autres espèces dans l'environnement vont aussi être alertées parce que c'est les mêmes paramètres qui sont codés. Ça, c'est une première chose. Il y a aussi des animaux qui utilisent les signaux. Il y a par exemple, je pense à une espèce de fourmi et une espèce de, je sais plus un autre insecte qu'on trouve qui va aller parasiter les colonies de fourmis en quelque sorte. Enfin, il les parasite pas vraiment, mais il va s'introduire dans les colonies de fourmis et les jeunes vont être nourris par les fourmis. Et on a montré que ces juvéniles, je crois que c'est des papillons hein, ou des chenilles, je sais plus, ou des coléoptères, je sais plus, bref, produisaient les mêmes signaux acoustiques que les reines. Et dans ce cas-là, du coup, ils produisaient aussi des signaux chimiques, hein, mais la production de ces signaux acoustiques, comme les rennes des fourmis, allait participer au fait que les fourmis sont leurrées. Ouais, donc ça existe, ouais.
Ouais. J'aurais voulu savoir si vous aviez pu mesurer une évolution du langage dans le temps.
Alors ouais, c'est une bonne question. On a regardé et il faut savoir que je vais répondre sur l'alouette, après je répondrai peut-être un peu plus général. Donc je vais plutôt le faire dans l'autre sens. Ce dialecte là vient clairement lié au fait que les oiseaux apprennent leur chant. En tout cas, il y a à peu près 10 000 espèces d'oiseaux et il y a 4 000 espèces d'oiseaux qui produisent un chant qui est d'abord au préalable appris par imitation. Et chez les alouettes, le fait qu'il y ait des partages comme ça de syllabes, ça résulte clairement d'un processus d'apprentissage. Et donc, ce qu'on a pu constater, c'est que d'une saison sur l'autre, on allait avoir conservation de ces séquences, ouais, conservation de ces séquences de syllabes partagées, même si les individus changent, du moment qu'il y a quelques individus qui restent entre voisins, entre eux, ils adaptent leur chant, en fait, ils réapprennent, ils copient leurs voisins d'une année sur l'autre, mais au bout d'un moment, cette signature de groupe, au bout de quelques années, elle disparaît complètement et elle est remplacée par une autre, en fait, parce qu'il y a un turnover des oiseaux. Là-bas, là-bas. Attention les béquilles. Ah non, c'est bon.
J'avais la même question que sur l'apprentissage. Merci. Je me pose une autre question sur le nombre de syllabes. Est-ce qu'elles ont tout un sens? Est-ce qu'on peut considérer ça en arabe comme des mots?
Non. Non, c'est pas aussi élaboré que ça. On a chez les oiseaux, effectivement, l'ordre des syllabes est important, mais chaque syllabe en tant que telle n'a pas une signification. On peut pas dire ça. On va pas avoir une syllabe, une fonction, une syllabe, un mot. Par contre, c'est pas vrai chez l'alouette, c'est pas vrai chez plein d'autres oiseaux. Par contre, c'est vrai quand même chez, ça me fait penser à un oiseau qui est une mésange. C'est la mésange, je sais plus, c'est une mésange américaine. Et cette mésange américaine, elle a en cri d'alerte vis-à-vis de prédateurs, elle fait, ah oui, c'est la chickadee. Et chickadee, pourquoi on l'appelle la chickadee? Parce qu'elle fait chickadee dans ses cris, justement. Elle fait chickadee, chickadee, chickadee. Et en fait, on a pu montrer, elle a deux types de notes, un chick et un di. Et on a pu montrer que en fonction de la taille du prédateur, elle n'allait pas, les oiseaux ne produisaient pas le même nombre de di. Et que plus le prédateur était gros, plus les oiseaux avaient tendance à produire un grand nombre de di. Donc vous avez chickadee, je vous limite pas parce que je suis un peu nulle là. Et on a montré, donc ça c'était l'observation qu'on a vue en enregistrant, mais on a surtout montré qu'en diffusant des signaux avec un nombre variable de di, les réponses vis-à-vis du prédateur qui était un prédateur factice n'étaient pas les mêmes. Donc il y a vraiment une information qui est codée plus par le nombre d'unités sonores particulières, mais il ne va pas y avoir pour chaque unité sonore une signification. En tout cas, chez les oiseaux. Mais il y a d'autres oiseaux, d'animaux qui ont des répertoires extrêmement importants. Je pense aux dauphins. Et les dauphins, jusqu'à preuve du contraire, c'est extrêmement varié, c'est extrêmement complexe. Mais jusqu'à preuve du contraire, c'est pas du tout des mots. Et cette complexité reflète pas du tout une complexité de mots, quoi. Ça répond à votre question à peu près ? Non, non.
Vous pouvez répéter éventuellement la question si vous avez entendu, on n'a pas de temps pour le faire.
Je peux le faire s'il vous plaît. Non, tous les mots ou tous les organes n'ont pas une fonction. Alors, oui et non.
Qui chantent, ou après dans les autres animaux, est-ce que le langage est le même ou pas?
Alors, effectivement, je l'ai pas. J'étais partie, je l'ai pas dit. Chez les alouettes, c'est effectivement les mâles qui chantent, et chez la plupart des oiseaux chanteurs, c'est-à-dire ces fameux oiseaux qui produisent des vocalisations apprises par imitation, chez la plupart des oiseaux chanteurs sous nos latitudes, ce sont les mâles qui chantent. Mais chez les espèces tropicales d'oiseaux chanteurs, on trouve les mâles et les femelles qui chantent. Ça, c'était la première partie de la question. Et, par exemple, et pour les autres animaux, vous allez souvent avoir des vocalisations qui sont produites soit par les mâles, soit par les femelles. Mais effectivement, vous avez en lien avec la communication dans un contexte de reproduction, hein, les mâles vont produire des signaux spécifiques qui leur sont propres, qui ne sont produits que par les mâles, et éventuellement les femelles produisent aussi des signaux qui ne sont produits que par les femelles. Et puis éventuellement chez les oiseaux, là j'ai parlé du chant, mais les alouettes, elles produisent aussi un grand nombre de cris, hein, qui sont d'autres types de vocalisations, et là les deux sexes les produisent. Ouais. Alors, en fait, il y a plusieurs hypothèses. Moi, je suis pas hyper calée en oiseaux imitateurs. Il y a plein d'oiseaux imitateurs. Il y a un peu deux grandes hypothèses. La première hypothèse, c'est que c'est des oiseaux qui donc produisent des vocalisations apprises par imitation, et le fait qu'ils imitent est en fait une conséquence fortuite. Ils imitent d'autres choses que des oiseaux parce qu'ils ont des capacités d'apprentissage et qu'ils les utilisent. Il y a aussi une. Alors ça, c'est une espèce de. C'est quelque chose de mécanique finalement comme réponse. Voilà, c'est juste parce qu'ils ont des capacités d'apprendre, ils apprennent. Mais il y a d'autres hypothèses avec des études qui vont un peu dans le sens qui montreraient que ça participe aussi à leur adaptation dans l'environnement dans lequel ils se trouvent. C'est-à-dire va leur permettre de s'adapter à différentes situations, différentes rencontres dans leur environnement avec d'autres animaux qui permettraient de ça montre une certaine plasticité. Ma réponse, elle est un petit peu, là pour le coup, je suis pas spécialiste de l'imitation, et donc je me sens un peu coincée pour vous donner une réponse plus belle.
Il semblerait que les séquences des oiseaux soient plus ou moins complexes selon les espèces. Alors, est-ce qu'on peut dire, oui, qu'ils n'ont pas tous la même capacité d'expression? Est-ce que certains peuvent dire plus que d'autres?
On peut le traduire comme ça. Effectivement, il y a des espèces qui ont des chants, ce qu'on va dire, très simples, et des espèces qui ont des chants beaucoup plus complexes. Ceci dit, on peut coder un grand nombre d'informations avec un tout petit nombre de vocalisations. Par exemple, l'animal que je vous ai fait entendre, l'oiseau qui fait ses booms là, dans les booms, c'est une vocalisation très simple, un boom, hein, comme ça, eh bien, il y a des codages d'informations qui sont complètement multiples. Il y a le codage sur l'information identité spécifique, il y a un codage sur l'information je suis gros et fort, vous voyez, donc c'est pas parce que la structure acoustique est complexe que ça venait ou simple que le codage d'informations est complexe ou simple. Parce qu'en fait, ce qui est important dans l'histoire, c'est vraiment comment sont codés les messages, c'est-à-dire les paramètres qui participent au codage. C'est pas la diversité, finalement, c'est nous qui la voyons comme ça. Mais voyez, le chant de l'alouette, il est très compliqué. Mais l'information « je suis une alouette », c'est sur quelque chose de très très simple. Donc c'est pas, il n'y a pas d'adéquation entre les deux.
Oui, je voulais savoir si on fait écouter le même chant, son chant, son propre chant, comment il réagit? Est-ce qu'il a une conscience de soi?
Alors, a priori, c'est pas tellement une question de conscience de soi, ça n'a pas de sens en fait. Mais ça n'a pas de sens de le faire. d'un point de vue biologique, si ce n'est que effectivement l'oiseau s'entend, et si ce n'est que par contre pendant l'apprentissage, j'ai pas de réponse à votre question parce que je suis pas sûre on le fait pas, parce que d'un point de vue biologique, tester la réponse territoriale de l'animal à son propre champ, ça a pas de sens, donc on le fait pas. Par contre, on a montré que au moment de l'apprentissage, pendant la période d'apprentissage, l'écoute de son propre chant produit par l'oiseau est très importante pour ajuster son apprentissage. Je m'explique, l'apprentissage, il est fait par imitation d'un ou plusieurs chants tuteurs. En général, c'est le chant du père, parce qu'il est à proximité. Et le jeune oiseau a en mémoire un espèce de patron, de chant tuteur type qu'il a mémorisé, et il va en s'exerçant, il va s'exercer à produire son propre chant qui va ressembler beaucoup à celui du chant tuteur. Et dans ce contexte-là, c'est très important pour le jeune oiseau qu'il puisse entendre son propre chant pour contrôler en quelque sorte si sa sortie vocale correspond à ce qu'il a mémorisé. Donc dans ce sens-là, ça a une signification. Par contre, est-ce qu'on peut aller... C'est-à-dire, c'est toujours pareil. Oui, il a une conscience de son chant, mais est-ce qu'il a conscience d'avoir conscience? Ça, on n'en sait rien.
J'aurais aimé savoir quels sont les animaux dont on connaît mieux le langage et qu'est-ce qu'il est possible de savoir sur Simon, précisément possible, sur ce qu'ils disent ou sur ce qu'ils communiquent.
Alors les oiseaux sont quand même très connus, mais les oiseaux en général, et en même temps il y a 10 000 espèces d'oiseaux et on connaît bien un petit nombre d'espèces finalement. Mais les oiseaux font partie des animaux les plus étudiés, les primates pas mal aussi. Les cétacés sont très étudiés, mais les cétacés, on a un mal de chien à comprendre ce qu'ils racontent. D'abord parce que d'un point de vue technique, c'est extrêmement compliqué. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis c'est beaucoup plus compliqué de tester les réponses comportementales d'un cétacé qui, en 4 coups de nageoire, peut partir à l'autre bout de la mer et en profondeur, et donc on voit pas. Et je pense que c'est, à mon avis, c'est quand même les oiseaux. Mais ceci dit, les insectes aussi sont très très étudiés. On connaît plein de choses sur les communications acoustiques chez les insectes. Pardon ? Ah, ils communiquent plein d'informations. Alors, des informations liées à la reconnaissance. Par exemple, chez les oiseaux, il y a reconnaissance entre partenaires sexuels, il y a reconnaissance de l'espèce, il y a reconnaissance de l'individu. Il va y avoir dans les relations parents-jeunes, dans la relation entre jeunes. Après, ça dépend des espèces d'oiseaux. Hein. Indicateur de l'état émotionnel, du bien-être aussi dans certains cas. Donc, il y a vraiment un nombre d'informations important. Alors, ça n'a jamais été fait, et en plus c'est vachement difficile de faire ça parce que, par définition, injecter une alouette dans une localité où il y a déjà des territoires établis, elle ne va pas pouvoir s'établir elle-même puisque les individus sont déjà là. Par contre, ce qui a été montré, mais pas chez l'alouette, c'est que effectivement, les jeunes qui arrivaient le mieux, je ne sais plus chez quelle espèce, mais je suis une autre espèce d'oiseau chanteur, les jeunes qui, la première année lorsqu'ils s'établissent, arrivent à acquérir le plus de chants ou de syllabes de leurs voisins, ont des succès d'établissement et de reproduction meilleurs que ceux qui ont acquis moins de choses en commun. Bonjour.
Est-ce qu'il y a des recherches là-dessus, s'il y a catastrophe naturelle comme un tsunami. Tant que je sais, les animaux, ils ressentent.
Alors,
nous, avec notre technique,
ouais.
Est-ce qu'il y a de la recherche là-dedans pour pouvoir s'en servir de leur ressentiment?
Alors, à ma connaissance, non, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, parce que je ne sais pas, en fait. Par contre, effectivement, il y a un certain nombre d'animaux, comme les éléphants, comme certains oiseaux, qui perçoivent les infrasons, et donc qui sont capables de percevoir, parce que c'est dans leur potentialité perceptive, de percevoir à l'avance les rats de marée ou les choses qui créent, avant d'arriver, des sons de très basse fréquence. Et effectivement, les éléphants sont capables. Il y a un oiseau qui s'appelle la barge rousse qui est capable de faire ça aussi. Puis il y en a d'autres. Hein. Mais alors, est-ce que c'est étudié pour prédire les trucs? Ça, je ne sais pas.
Autre question.
Une question sur les cigales.
Oui.
Les cigales, je suis toujours surpris de voir qu'il y a un certain rythme au niveau de l'arbre. Tout à coup, il y a un arbre qui se met à stimuler.
Oui.
Toutes les cigales sont ensemble et puis ça s'arrête.
Oui.
Est-ce que vous avez étudié ce
Alors, problème? Moi non, mais ça a été étudié. En fait, chez les cigales, il va y avoir ce qu'on appelle des chœurs. Et on a pu montrer que. Il y a souvent un individu leader, c'est-à-dire qu'il y a un individu qui commence et les autres se mettent à produire à la suite. Et il va y avoir chez les cigales des phénomènes pour, ça dépend des espèces d'ailleurs, soit pour éviter de chevaucher les cymbalisations du premier individu, donc on va attendre que le premier individu ait terminé pour commencer à produire, ou bien au contraire pour produire, il va y avoir des espèces où les individus produisent en même